Vérissure, tellement plus qu'une alarme.
Les cambrioleurs sont passés par le jardin. On a mis du temps à se sentir à nouveau chez nous.
Avec l'alarme Vérissure, ça n'arrivera plus. Les intrus sont détectés avant qu'ils ne pénètrent chez vous. Et en plus, nos agents préviennent les forces de l'ordre si nécessaire. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour profiter de moins 50% sur nos packs. Offre soumise à condition. Un service opéré par Vérissure, société agréée CNAPS.
RMC, l'invité des grandes gueules.
C'est Loïc Signor, candidat Ensemble, donc macroniste dans le Val-de-Marne. Bonjour.
Bonjour, Olivier.
On va pas parler de votre circo, parce que sinon, on est obligé d'ouvrir les temps de parole. C'est très compliqué. Ce sont des règles très strictes fixées par l'ARCOM. Simplement, vous faites partie de tous ceux qui disent au sein du camp présidentiel, il faut faire barrage au Rassemblement National. Donc, alors, vous avez décidé de vous maintenir parce que selon la configuration de votre circo, c'est la meilleure façon de faire barrage. Voilà. Mais, la question qu'on se pose dans les grandes gueules depuis ce matin, c'est est-ce que le Front Républicain, ça fonctionne encore? Est-ce que on a fait ça depuis 2002 et maintenant le Rassemblement National est aux portes du pouvoir. Donc quand même, on s'interroge.
Non, mais je suis assez d'accord avec vous. Le Front Républicain, d'ailleurs, il est au cas par cas dans la situation dans laquelle nous sommes. C'est pas un Front Républicain voté pour un tel, pour éviter un tel. En tout cas, dans mon cas, c'est plutôt un maintien tactique pour éviter de garnir les rangs du Rassemblement National. Mais c'est pas non plus pour travailler avec la France Insoumise demain. Au contraire, moi,
il y a pas une alliance contre nature Mélenchon-Macron dans cette histoire.
Non, je crois pas. Honnêtement, j'ai toujours dit sur vos plateaux ce que je pensais profondément de la France Insoumise, qui m'inquiète énormément. Et je crois que si la France Insoumise pouvait être seule à la tête d'une majorité absolue, j'aurais à peu près le même discours. Moi, je ne veux pas, qu'on soit très clair, que la France Insoumise gouverne ce pays, et je ne veux pas que le Rassemblement National gouverne ce pays.
Et vous dites qu'aujourd'hui, c'est le Rassemblement National qui a plus de chances d'avoir la majorité absolue.
Clairement. On le voit dans les sondages, on le voit dans les résultats du premier tour, on le voit dans les projections en siège des différentes études. Donc oui, il y a une forte probabilité qu'il y ait ce risque, et donc il faut
mais
tout faire pour l'empêcher.
Pourquoi ne pas laisser les gens choisir?
Non, mais je laisse les gens choisir, et c'est d'ailleurs la raison de mon maintien, c'est qu'ils auront un bulletin.
D'accord, mais ailleurs, dans la plupart des circos, le candidat arrivé troisième Ensemble, j'allais dire Renaissance, mais Ensemble, bon, c'est, enfin macroniste, a dû se désister. Donc finalement, on a eu tout à l'heure des électeurs qui étaient un peu,
oui, mais
qui étaient orphelins, disant mais finalement, j'ai plus mon candidat, il a pu se maintenir, ouais. Et j'ai pas vraiment envie de choisir entre les deux qui restent.
Bah, ça a été mon choix, moi, de me maintenir pour laisser sur la table un bulletin républicain. Pardon.
Donc malgré les consignes élyséennes, il y en a.
Moi, je me maintiens parce que je suis dans une particularité où le RN.
C'est un truc important parce que l'exemple qu'on a eu.
Moi, je vais pas parler de la circo.
Non, on va pas parler de la circo. Merci. J'ai dit qu'on parlait pas de la circo.
Mais simplement dans un risque où le RN est arrivé très très haut.
Non, mais j'ai compris ça.
Dans une autre circonscription que la mienne, on a préféré plutôt se désister plutôt que d'avoir à affronter demain un gouvernement Bardella dont on sait pertinemment qu'il sera mortifère, dont l'action sera mortifère pour le pays et qui va nous pousser dans un chaos très rapidement, parce que on le voit ces dernières semaines. Bardella change de discours à peu près tous les jours. Il y a, on l'a vu, des candidats RN qui sont extrêmement dangereux, dangereux pour la République par leur prise de position contre l'état de droit, contre le droit de la presse, contre le droit des femmes. Et donc, on pense qu'aujourd'hui, la priorité, je le dis bien, c'est de faire barrage au Rassemblement National. Demain, il y aura une nouvelle priorité. Exclure tout accord, toute discussion avec la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Je lisais dans le Canard Enchaîné encore des nouvelles sur Rima Hassan. Je peux vous dire que j'ai pas envie de travailler
avec eux. Votre cas est particulier, mais dans le cas d'un désistement du troisième,
le cas majoritaire,
qui est un macroniste, et on laisse un LFI à Rassemblement National. Aujourd'hui, les gens, ils ont quand même pas le choix que d'aller à la pêche ou de voter pour un extrême droite ou de voter pour un extrême gauche, quoi.
Où il y a le vote blanc qui existe.
Cas, il y aura un des deux extrémistes qui sera élu.
Je vais vous répondre très clairement. Je préfère un clown de la France Insoumise qui ne peut pas gouverner à une majorité absolue du Rassemblement National pour Bardella.
D'accord.
Voilà. Et ensuite, responsabilité collective d'essayer de trouver des projets qui font avancer le pays. Voilà.
Oui, mais pour aller plus loin que ce que raconte Didier, c'est par exemple Jean-Baptiste Moreau, que vous connaissez bien, qui a été candidat Renaissance dans la Creuse, mais qui a été éliminé au premier tour, où lui dit les désistements qu'on a décidé, ils vont fabriquer du vote pour le RN en masse sur des territoires comme le mien.
Bien
parce
sûr.
Que dans les campagnes, en ruralité, les gens ne voteront jamais pour le candidat Front Populaire. Et donc, comme ils n'ont plus leur candidat
l'agriculture
macroniste ou centriste, eh bien, ils vont aller vers le RN. Est-ce que finalement...
Il y a 1,8%
est-ce que
ouais, mais ça irrigue quand même tout un territoire, Étienne. Ça t'a peut-être échappé vu de ta banlieue, mais ça irrigue tout un territoire.
Et les gens,
mais non, mais Étienne, tu le sais. En plus, tu fais de la démagogie parce que tu le sais.
Ben oui,
tu connais le milieu rural.
Bien sûr,
et tu sais qu'aujourd'hui,
rural,
ceux qui crachent sur l'agriculture, ils emmènent les gens vers le Rassemblement national.
Personne ne crache sur l'agriculture.
Mais bien sûr que si.
Non.
À longueur de temps, à l'Assemblée nationale, ils le font, les extrêmes gauches.
Il suffit d'exiger juste un peu d'écologie, on se fait insulter.
Simplement que dans ces territoires-là, qui des agriculteurs ou pas, on vote assez peu France Insoumise. Donc je pose la question, est-ce que cette vague de désistement ne va pas créer l'effet inverse dans certains territoires?
J'ai pas la boule de cristal. Effectivement, il y a ce risque.
Est-ce que vous avez bien étudié la carte électorale?
Oui, on a étudié. Et encore une fois, c'est dans le cas de Jean-Baptiste Moreau, ce sont des personnalités qui sont arrivées troisième. Donc, on ne peut pas dire que les gens n'ont pas voté à gauche parce que la gauche est arrivée deuxième devant nous.
Oui,
donc, à un moment donné, il faut prendre en considération les résultats.
Parce que c'est pas un appel
au vote, pardon?
L'antimacronisme a été puissant.
Je ne sais pas si l'antimacronisme a été puissant. Si à 7 ans de pouvoir, 7 ans d'action, 7 ans de crise, nous arrivons nous seuls face à des blocs qui parfois font des alliances de la carpe et du lapin. Je pense à la Nouvelle Alliance Populaire, Nouveau Front Populaire, qui en réalité le 8 juillet ne sera d'accord sur rien, comme ils ne l'ont pas été pendant les européennes et comme ils ne l'ont pas été pendant les 2 ans qui se sont écoulés à l'Assemblée nationale. Au moins on a tenu, on a été cohérent, on a été constant, on n'a pas dit de mensonge aux Français, et malgré tout on arrive à 20% dans une crise politique majeure pour le pays, qui je crois appelle effectivement à un barrage contre le Rassemblement National, parce qu'on estime et on a toujours estimé que leur projet était dangereux, mortifère pour la France, mais surtout à une nouvelle conception de la vie politique. Et vous m'avez souvent invité sur votre plateau sur BFM TV, je vous l'ai toujours dit, essayons de s'entendre sur des projets clairs, sur quelques priorités pour le pays. Dans 3 ans, il y a une élection présidentielle.
Et chacun pourra... majorité plurielle.
Mais en tout cas, moi,
alors,
ce que je vois...
Étienne, là-dessus. Étienne, je vais vous poser une question.
D'abord là-dessus, pour le Parlement européen dont on vient de parler pendant 6 mois, qu'est-ce qui se passe?
C'est ça.
Il y a des socialistes, des gens de droite et des gens du centre qui s'entendent tous les jours. Et parfois, des lois qui s'appliquent dans notre quotidien à tous. Il y a des gens comme François-Xavier Bellamy, Raphaël Glucksmann et Valérie Ayer qui votent ensemble, qui votent sur des priorités.
Ça existe.
Vous savez, la différence, c'est qu'il n'y a pas les caméras. Et quand il n'y a pas les caméras, c'est beaucoup plus facile de trouver des terrains d'entente parce qu'on travaille, parce qu'on négocie, parce qu'on essaye de trouver du compromis et qu'il n'y a pas la politique spectacle. Et ça s'est passé à l'Assemblée nationale ces dernières années, en dehors de quoi ? Du texte sur les retraites et en dehors du texte immigration.
C'est qui a créé ce contexte au Palais Bourbon ? Rassurez-moi. C'est l'extrême droite ou c'est l'extrême gauche ?
Alors moi, je pense que nos institutions sont fatiguées. Surtout.
Question d'Étienne.
Est-ce que vous croyez qu'un pays peut fonctionner pendant 3 ans, par exemple,
avec, près du micro, Étienne,
avec ce qu'on appelle, par exemple, un gouvernement de technique, c'est-à-dire qui gère au coup par coup, parce qu'on risque de se retrouver avec cette figure-là, c'est-à-dire on prend un risque que plus aucune décision politique ne soit prise, qu'on gère le quotidien en attendant que ce soit sans faire de conneries, mais
premièrement, le Rassemblement National risque d'arriver en tête dimanche. D'accord ? Sans majorité absolue.
Ça
sera ingouvernable.
Non, mais alors attendez, il y a un autre gouvernement qui est arrivé en tête sans majorité absolue. Le nôtre,
Parce que ça a mais c'est un coup de tirant de
Macron lui-même.
Non, mais c'est une dinguerie parce que vous nous expliquez aujourd'hui.
Attendez, 50 textes.
Tais-toi,
50 textes
par trop.
50 textes ont été votés par une majorité relative. Donc pas seul. Avec l'apport des socialistes, avec l'apport de LR, avec l'apport des écologistes. Je prends un texte sur les énergies renouvelables, on a travaillé avec les communistes jusqu'au LR, parce qu'on a parlé du nucléaire. Il n'y avait pas les écologistes, il n'y avait pas les écolos. Mais on a trouvé une majorité sur ce texte. Parce qu'en gros, il n'y avait pas les caméras. Bardella, pour moi, il est un peu lâche en disant... Si j'ai pas la majorité absolue, je gouverne pas.
Parce qu'il a pas
il a pas envie de faire. Il a pas envie d'être courageux. Il a pas envie de faire avancer le pays. Ça, on est bien d'accord.
Utiliser 43 soit très courageux.
Écoutez, ça fait partie de la Constitution.
Faire à partir de lundi prochain. Avez pas fait depuis 2 ans.
Mais ça, moi, 50 textes, cher monsieur, et pas tous sur 49.3.
Si c'était formidable, Emmanuel Macron n'aurait pas dissous.
Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je dis une chose. Oui, c'était ingouvernable. Par latitude de personnalités politiques.
Parce qu'il n'y avait pas de majorité absolue.
Par latitude de personnalités politiques qui n'ont pas voulu jouer avec nous. Et je prends un dernier exemple. La réforme des retraites au Sénat, qu'est-ce qui se passe? Larcher Retailleau, il la vote, notre réforme, sans bruit, sans problème, avec du compromis, de la négociation.
Donc avec Larcher, vous pourriez par exemple, Gérard Larcher, Gérard Larcher était à l'Élysée hier.
Oui.
Est-ce que c'est pour dessiner une future majorité?
Vraiment, là, je peux pas vous dire,
j'en sais rien. La majorité plurielle, si je comprends bien, puisque c'est le terme utilisé par Gabriel Attal, référence à la gauche plurielle des années Jospin. C'est une majorité qui se ferait sans les Insoumis et sans le Rassemblement National, donc qui pourrait inclure des communistes, des socialistes, des écolos, jusqu'au LR.
Oui.
Très bien. Moi, j'ai entendu la maire de Nantes hier qui défendait l'idée d'une majorité plurielle, maire socialiste de Nantes, Madame Roland, qui disait très bien, mais il faut me poser des conditions.
Ah bah, par exemple,
elle veut l'abrogation de la réforme des retraites et l'abrogation de la loi asile-immigration.
Donc là, tu perds les LR.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
En fait, non, parce que
Donc déjà, c'est
une majorité plurielle, elle nécessite effectivement de la négociation et du compromis. Pour moi, j'ai un préalable à ça. Macron a été élu deux fois, 30% au premier tour en 2022, arrivé en tête devant tout le monde.
Le
Parti Socialiste est arrivé à 1%. Derrière, j'ai une règle d'or à partir du moment où on va négocier ensemble, c'est tout ce qui a été fait.
Donc
n'est
on
pas
ne touche
à
pas à la réforme des retraites.
En revanche.
Donc vous dites, c'est très important parce que la réforme des retraites, c'est l'un des points de désaccord majeurs.
Tout simplement qu'on y passerait trois ans. On y passerait trois ans, la détricoter.
D'accord.
Donc, bon,
mais
les décrets d'application sont pas
tout à fait. C'est une des promesses fortes, celle qu'on a retenue du nouveau Front Populaire. On a retenu deux choses, en gros, le SMIC à 1600 et l'abrogation de la réforme des retraites avec le retour de la réforme des retraites à 60 ans. Donc vous dites ça, on n'y touchera pas.
Mais je pense,
vous croyez vraiment
que
des socialistes, des écologistes vont aller.
Alors
c'est pas la soupe. Il faut être très clair, personne ne sera demain propriétaire seul de son propre projet, ni nous. Ni LR,
d'accord.
Ni la gauche.
Donc, on va faire des concessions chez vous.
Et bien sûr.
Mais Macron, c'est pas
bien
quelqu'un qui fait des concessions.
Mais oui, mais aujourd'hui, il donne la.
Mais c'est lui qui mène la barque.
Regardez, ensemble va avoir un nombre de députés qui sera sans doute supérieur au nombre de députés des socialistes.
Oui, mais pas. Oui,
d'accord.
Ah oui, vous avez déjà associé.
Eux, ils restent unis, mais
non. Mais encore une fois, je dis qu'on ne sera pas propriétaire de notre projet. Moi demain, si on doit aller à gauche, sur le retour d'un impôt sur la fortune pour financer la transition écologique, comme le propose Jean Pisani-Ferry.
Vous êtes d'accord pour le retour de l'impôt sur la fortune?
J'ai bien dit, à la façon dont a été proposé l'impôt sur la fortune pour financer la transition écologique de Jean Pisani-Ferry, qui a été l'un des soutiens d'Emmanuel Macron en 2017.
Donc un impôt sur la fortune climatique.
Exactement.
C'était une des propositions.
Voilà, sur les entreprises, sur les grandes fortunes. Il faut regarder, parce que ça, encore une fois, il faut donner des compromis. S'il faut aller pour la droite, sur un examen de quota d'immigration qui soit constitutionnel chaque année à l'Assemblée nationale.
Je ne vais pas l'accepter.
Mais attendez, encore une fois, personne n'est propriétaire de son projet.
Non, mais vous oubliez un truc
soit on me dit le RN ne veut pas gouverner et qu'on n'arrive pas à trouver des compromis ensemble. Je vous ai donné deux exemples assez costauds, à dessein, pour vous montrer qu'il va falloir trouver du
compromis. J'ai une question importante. Incroyable. Vous, depuis cette élection, c'est hallucinant. Les gens ont voté, premier tour. Ensuite, aux législatives. Ils votent au premier tour. Ensuite, on les dépouille pour une grande partie de ceux ou de celles ou celui pour qui ils ont voté parce qu'il y a eu l'organisation des désistements. Deuxième tour, les gens votent. Et on est en train de nous expliquer que si une majorité de Français a mis 220, 240, 250 députés RN au gouvernement, eh ben, on va encore vous piquer.
Mais qu'ils y aillent.
Loïc, c'est pas moi qui le pense, mais moi je parle pas. Pas pour moi, je parle des Français.
Oui, je sais.
Moi, ce qui me préoccupe, c'est la France et les Français.
Mais pareil.
C'est pas moi. Moi, en plus, dans ma circonscription, c'est super. Je suis dans une configuration où je vais voter pour quelqu'un. Donc, je fais partie des chanceux. Mais je parle au nom des Français qui pourraient se reconnaître dans ce que je vais dire. Je vote à droite, j'en ai marre, je vote à droite, et on est en train de faire une tambouille pour faire un gouvernement centre-gauche.
Je vais te répondre encore.
C'est ce que je voulais souligner.
J'ai compris.
Mais c'est X.
Moi, j'estime, et peut-être que c'est pas partagé par tout le monde, que la politique menée à 95% par Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, ça va à peu près dans le même sens. On est pour l'économie de marché, on est pour l'Europe,
c'est pour ça
on est pour la social-démocratie.
Fait 10 millions de voix.
Mais moi je déplore les oppositions systématiques. Non, c'est pas le système.
Le système veut se sauver.
C'est des valeurs.
Les gens à 35%, ils ont dit
mais c'est des valeurs démocratiques.
Donc il y a 12 millions de cons.
Non, je dis pas ça. Je pense sincèrement qu'il y a aujourd'hui des oppositions systématiques, qui sont des oppositions d'apparat, qui sont des oppositions d'opérette.
Mais ça, c'est
qui...
le macronisme depuis 2017.
Mais c'est... Non.
Mais ça, si vous l'avez fait, puisque vous avez pris des gens de gauche et des gens de droite. Bon.
Pour faire en marche.
Et aujourd'hui, regardez c'est... Marlex. Regardez Olivier Marlex.
Attendez.
Qui pendant, deux ans,
nous a tapé dessus. Comment vous allez expliquer aux gens?
Nous a tapé dessus à bras raccourcis, à nous faire croire qu'on était un coup des lepénistes patentés, un coup des gauchistes patentés. À la fin, il se fait éliminer.
Oui, mais.
Parce qu'il n'a pas voulu donner un bon point à un mec qui a fait baisser le chômage de 2 millions. 2 millions d'emplois supplémentaires.
Non, mais Loïc, alors dernière question.
Des usines,
comment vous allez expliquer
des millions d'emplois pendant
comment
le Covid.
Vous allez expliquer au deuxième tour en français.
Non, mais Zora, vous voyez ce que je veux dire.
Dites-moi, donnez-moi l'argument.
Pourquoi il nous a tapé
Français,
comme ça.
Ils ont
pourquoi
voté...
Marlex nous a tapé
non,
comme
mais
ça.
Attendez.
Pourquoi Bertrand
non,
nous a tapé comme ça.
Non, mais ça, on le sait, ça, je le sais, les Uniclair, machin, la dictature.
Pourquoi ils nous ont tapé comme ça. Parce qu'ils espéraient reprendre le flambeau derrière et à la fin, ils ont le RN.
Qu'est-ce que vous allez dire aux Français au deuxième tour quand ils auront voté massivement RN? Qu'est-ce que vous allez leur dire pour leur dire, écoutez, votre vote, on s'en fout. Votre expression. Donc, on se prend un gouvernement en coalition.
Mais je dis que Bardella
avec des
n'est
gens
pas courageux.
Qui ont nos valeurs.
Je dis que Bardella n'est pas courageux.
C'est pas moi qui parle. Devenir Premier ministre.
En fait, si demain le RN arrive en tête à l'Assemblée nationale, le président de la République, par tradition et coutume républicaine, va appeler Jordan Bardella et lui proposer le poste de Premier ministre.
Alors, pour ne pas vous tirer une balle dans le pied, pourquoi vous êtes dans des tambouilles? Non, mais parce que ça circule.
Non, mais on peut aller plus loin.
Non, mais
il faut changer le mode de scrutin. Moi, je le crois.
Mais
ça,
bien
vous
sûr.
L'avez pas fait. Ça fait 7 ans que vous êtes au pouvoir.
Mais pourquoi, Olivier?
C'est toujours
mais
quand on a perdu.
Non, mais
qu'on
pourquoi
va faire
contre.
Ça.
Pourquoi?
Moi, j'ai toujours vu les politiques faire ça quand ils ont perdu.
Non. Pourquoi?
Les Français étaient d'accord.
Les Français étaient d'accord.
Il fallait faire un référendum.
Mais le Sénat était contre.
Vous avez fait un référendum. Alors non, Loïc, pardon.
Mais un référendum.
Vous faisiez un référendum sur la proportionnelle, ça passait.
Ça passait crème.
Les Français sont pour. Mais il fallait le faire au début en 2017. Maintenant, il est tellement.
Oui, on a fait croire que l'affaire Benalla était une affaire d'État.
Pardon. Je reviens sur votre histoire de majorité plurielle. Elle me paraît complètement lunaire. Parce que déjà, si on regarde les résultats du premier tour, le compte n'y est pas. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas suffisamment de voix pour trouver une majorité absolue avec cette
même
majorité
avec les décisions.
En écartant les 200 et quelques députés RN et la soixantaine ou 70 députés insoumis, je ne vois pas comment vous pouvez obtenir. Ça voudrait dire qu'il faudrait avoir 100% de socialistes, 100% d'écolos, 100% d'LR. Ça me paraît complètement. Donc j'ai l'impression qu'on vous racontait une fable aux électeurs. Pour leur dire qu'un autre chemin est possible.
Non, je raconte pas une fable, c'est mon souhait depuis toujours.
Vous l'avez,
moi aussi. Ça commence à faire beaucoup le mois de juillet en hiver, là. Mais, non, je l'ai toujours souhaité parce que c'est ce qui se passe partout chez nos voisins. Angela Merkel a gouverné avec la gauche, avec les Verts.
Mais c'est pas
ça
le même
pas,
système.
Ça n'a pas plongé l'Allemagne. Ça n'a pas plongé.
On est dans un système présidentiel.
Mais c'est pour ça que je pense et je vous le dis toujours.
Que
les institutions sont fatiguées. Et donc c'est peut-être la prochaine étape. Et
de dire,
et en constatant que les institutions sont fatiguées, usées, qu'on ne les comprend pas toujours, qu'on fait passer des articles de la Constitution pour des actes dictatoriaux.
En Allemagne, dans les
institutions. Non, mais Loïc, pourquoi radicaliser les électeurs avant même qu'ils aient voté?
Je vous dis, Zora, très clairement que le Premier ministre aura.
Oui, mais
demain,
sauf que la musique qui monte, c'est de dire mais vous pouvez tous voter l'élection. RN, et de toute façon, on va s'organiser pour faire une majorité plurielle.
Mais qu'il aille à Matignon,
c'est ça qu'il faut dire.
Bah non, puisque je le dis pour qu'il n'ait pas la majorité absolue.
Mais oui,
ça marche.
Mais oui, mais oui.
Ça, c'est le jeu démocratique.
Non, mais à la fin.
Oui, mais à la fin,
ça veut dire que
personne n'empêche les gens de voter pour le RN.
Il y aura toujours un bulletin RN sur la table.
Non, mais ça donne l'impression.
Mais oui, c'est l'impression que ça donne.
Il y aura toujours un bulletin RN sur la table. Les gens sont libres de voter.
T'aurais voulu quoi?
Interdit le Rassemblement National, les gens sont toujours libres de voter pour le Rassemblement National.
Il y a 12 millions de personnes qui, quoi qu'il arrive, leur vote ne sera pas pris en compte. Ouais. Puisque ces gens-là, quand on les interroge, ils disent ça fait des années
le vote,
que le vote
est pris
RN,
en compte par tout le monde.
Non,
pour tout le monde.
Non, mais le vote pris en compte dans le sens où non seulement on ne répond pas aux problèmes.
Il y a pas de sous-électeurs,
on ne répond pas aux problèmes qu'ils soulèvent. Non, ils trouvent que depuis 20 ans, on ne répond pas à leurs problèmes.
Voilà, c'est ça la
vote. Ils votent de plus en plus et qu'en plus, on va leur voler leur victoire.
Alors après, on peut faire un débat de fond. Moi, quand on me dit ça fait 20 ans qu'on répond pas à mes problèmes, et que je regarde les 7 dernières années, et je ne vais pas vous dire que tout a été parfait, je vous mentirais,
oui,
parce que forcément tout le monde fait des erreurs. Mais pardon pour les électeurs de gauche, quand on fait plus baisser les émissions de gaz à effet de serre en un an l'année dernière, qu'en 5 ans de François Hollande allait allier avec les Verts, qu'on ne vienne pas me donner des leçons d'écologie. Quand on fait revenir 2 millions d'emplois, alors que le candidat en Corrèze, qui n'a pas pu se représenter à l'élection présidentielle, parce que, précisément, il n'avait pas réussi à faire inverser la courbe du chômage, qu'on ne vienne pas me donner des leçons. Alors, quand on recrée des usines dans le nord de la France, chez Xavier Bertrand, et là où on vote RN, là où il y a des usines,
usines de mégabatteries qui vont être ouvertes parce que l'attractivité française a été retrouvée là où elle était morte et aplatie pendant les 20 dernières années, qu'on ne vienne pas me donner des leçons. Donc moi, on peut me donner des leçons sur plein de choses parce que tout n'a pas été parfait, il y a eu des maladresses, il y a eu des erreurs, mais qu'on regarde aussi un peu le bilan à l'heure où on voudrait voter Rassemblement National pour tirer d'un trait de plume sur le bilan d'Emmanuel Macron.
Loïc Signor, est face au GG. Vous pouvez lui poser des questions 32-16, n'hésitez pas à appeler, on attend vos réactions et on continue de discuter ensemble. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC et RMC Story avec face au GG Loïc Signor. Il était porte-parole de Renaissance. Il l'est toujours, mais il est surtout candidat en ce moment. Candidat ensemble dans le Val-de-Marne. Bah, il porte surtout la parole du candidat qu'il est pour le deuxième tour dimanche. Et avec lui, on voit ce front républicain. Est-ce que ça va fonctionner face au Rassemblement National? Nous sommes avec Mamadou qui est avec nous au 32-16. Bonjour Mamadou.
Bonjour les grandes gueules.
Vous nous appelez de Fresnes dans le Val-de-Marne. Vous vouliez parler à Luc Signor, je vous laisse avec lui.
Eh ben, je voulais lui parler et je voulais parler à toute la Macronie aussi. Pendant 7 ans, il n'a pas écouté les Français. Pendant 7 ans, il a gouverné comme un roi. Nombre de 49-3 record. Donc aujourd'hui, pourquoi lui faire confiance aujourd'hui? Pourquoi lui faire confiance en fait? Vu qu'il n'a pas écouté son peuple. Voilà, aujourd'hui le peuple se rebelle grâce aux urnes, tout simplement.
Est-ce que je peux juste vous poser une question, Mamadou? Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie?
Moi, je suis infirmier.
D'accord. Donc vous avez profité.
Et il nous a pas écouté non plus. Hein. Et nous, il nous a pas écouté. Au contraire, il nous a piétiné.
Est-ce que vous avez profité du Ségur de la santé sur votre salaire?
Très très minime. Combien? Moi là, je suis arrêté là. Justement, je vais voir un patient.
Oui. Combien est-ce que vous êtes infirmier libéral ou à l'hôpital?
Non, je suis en HAD. Je vais chez les patients au domicile.
D'accord. Parce que
il nous a fait mal. Hein. Je peux vous dire qu'il nous a fait mal. Et le Ségur, c'est peanuts. Hein. Sur le salaire, ça représente 158 euros.
158 euros par mois?
158 euros par mois. C'est une prime, hein. C'est pas compté dans la retraite.
J'entends hein, que c'est jamais suffisant, mais 158 euros multiplié par le nombre d'infirmiers, d'aides-soignants. Moi, je vous prends quelqu'un que je connais bien, ma sœur qui est aide-soignante. Et son mari, pareil. Dans le Val-de-Marne, comme vous, Émile Roux à Limeil-Brévannes, dans la circonscription dans laquelle je me présente. C'est un gain moyen de 800 euros par mois. Parce que il y a, effectivement, vous l'avez dit, des primes de nuit et le Ségur de la santé, c'est beaucoup d'argent qui a été mis sur la table pour augmenter des salaires qui étaient trop bas. Et je suis d'accord avec vous qu'ils sont toujours trop bas. Mais la preuve, en une seconde de discussion, je vois que vous avez quand même gagné 158 euros par mois de plus avec Emmanuel Macron.
C'est ce qui est pas mal.
Ce qui est pas mal, c'est pas suffisant.
Je vais vous poser juste une question. Voilà. Les députés se sont augmentés de combien, là, récemment?
J'en ai absolument aucune idée. Je crois que ça a été le cas, effectivement.
Renseignez-vous. Les députés qui sont très bien lotis.
Mais c'est pas du salaire. Mais c'est des frais. Mais après, monsieur,
c'est vrai que ça a été une connerie. Ça a été une énorme connerie politique.
C'est sans doute une erreur.
Je crois que c'est des. Il y avait l'inflation.
Je crois que c'est des frais de représentation. C'est ce qui permet simplement aux députés.
Mais tout le monde a voté pour, son PLFI.
Oui, tout le monde a voté pour. Mais surtout, c'est ce qui permet aux députés d'avoir des permanences sur le terrain, d'aller vous voir, de se déplacer. Et comme tout le monde, ça a suivi l'inflation. Est-ce que c'est une erreur? Sans doute. Je pense qu'il y avait d'autres priorités.
Au-delà de ça.
Mais au-delà de ça, je pense que je vais répondre à la première question. Est-ce que on a été à l'écoute des Français? Moi, je crois que oui. Et encore une fois, je le répète, mon discours est toujours cohérent. Il y a eu des erreurs, il y a eu des maladresses, il y a eu des prises de parole qui étaient sans doute à éviter. Mais je pense quand même, cher monsieur, que quand je vous vois à 158 euros par mois, c'est toujours pas assez, c'est pas suffisant, mais que des efforts ont été faits. C'est pas la gauche qui l'a fait, cet effort salarial pour les infirmiers. C'est pas la droite, auparavant, qui l'a fait, cet effort salarial pour les infirmiers. C'est pas dans les promesses de Jordan Bardella. C'est pas dans les promesses du nouveau Fonds populaire qui vous font croire qu'ils vont pouvoir augmenter le SMIC à 1600 euros. Mais cette augmentation, elle a un coût et elle va avoir pour principale incidence d'avoir à aller chercher des sous ailleurs. Et peut-être chez vous, monsieur, peut-être dans l'hôpital public, peut-être dans la fonction publique territoriale, peut-être chez les policiers que nous avons rééquipés. Vous voyez un truc bête, hein, les voitures de police. Elles étaient toutes blanches et fracassées, aujourd'hui elles sont grises et à la hauteur des missions et des attentes des policiers, parce qu'on a changé le parc automobile des policiers.
Mamadou.
Tout ça coûte beaucoup d'argent. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas été à l'écoute des Français. Il y aura toujours des déçus, c'est normal. 7 ans, c'est court. 7 ans, c'est très court. Oui, dans les crises que nous traversons.
C'est un septennat, c'est déjà beaucoup.
Un septennat avec les gilets jaunes, le Covid et la guerre en Ukraine et l'inflation.
Je sais, on pense toujours qu'il faut rester des années au pouvoir pour changer les choses.
Non, mais je peux vous dire que quand on est à 2,8%, quand tu démarres le mandat en voulant fermer les centrales nucléaires et puis qu'après tu promets à les construire, à un moment donné, c'est court.
Ça, c'est pas vrai.
C'est forcément court.
Non, enfin, mais attendez, on peut pas dire. Trouvez-moi la preuve.
Emmanuel Macron.
Trouvez-moi la preuve. Trouvez-moi la preuve. Trouvez-moi la preuve. Il y a des journalistes rigoureux ici. Qu'Emmanuel Macron a dit en 2017, je vais fermer les centrales nucléaires.
Si, il a repris le programme de réduction du parc nucléaire. Et ensuite, et d'ailleurs, c'était un deal passé avec Nicolas Hulot, qui était son ministre de l'écologie. Ah oui. Et ensuite, effectivement, on s'est rendu compte que c'était une erreur, notamment parce qu'avec ce qui se passe en Ukraine, il faut à tout prix se détacher de notre dépendance avec la Russie. Et tout d'un coup, on est à fond pour le nucléaire. Bien sûr qu'il y a eu double discours là-dessus. Et le fait de fermer Fessenheim envoyait le message qu'effectivement, on était plutôt en idée contre le nucléaire. Et quand on interroge, je termine, des ingénieurs, qu'on a du mal d'ailleurs à recruter, puisque la filière était plus intéressante, les ingénieurs nucléaires disent effectivement, à un moment donné, on n'a plus investi et le discours ambiant et politique était de dire il faut sortir de nos dépendances nucléaires.
En toute honnêteté, parce que c'est un sujet sur lequel je me suis particulièrement penché, très honnêtement, la fermeture, tu as raison de dire que la filière n'était plus intéressante, tu as raison, mais la fermeture de Fessenheim, elle était programmée depuis très longtemps.
Oui,
programmée depuis le jour où Fessenheim a été monté, puisqu'on dit une centrale, mais bien sûr, dure tant d'années. On dit une centrale dure tant d'années.
Et comme toutes les autres centrales.
Au bout de tant d'années. Oui, ben,
et on les a pas fermées, les autres.
Oui, mais c'est la plus ancienne. Mais non, c'est la plus ancienne.
Parce que n'aurait pu la prolonger. Tous les experts l'ont dit.
Sauf que la sécurité n'était pas, la sécurité n'était plus à 100%.
C'était un deal passé entre François Hollande. Et je vais même dire, c'était un deal qui était passé entre Martine Aubry et Cécile Duflot. Précisément, mais je connais très bien l'histoire. C'est un deal qui est passé entre Martine Aubry et Cécile Duflot en 2012, lorsque François Hollande accède au pouvoir. On va fermer Fessenheim. Finalement, François Hollande ne ferme pas Fessenheim, il repousse ces choses. Et Emmanuel Macron, qui prolonge en quelque sorte ce deal avec
Nicolas Hulot. Et qui avait besoin des écolos pour faire une majorité plurielle.
Avec Nicolas Hulot, il décide de fermer
à la date à laquelle elle devait fermer. Oui. Je suis désolé, Après, vous pouvez imaginer mais tout ce que
Toutes les centrales ont été prolongées parce qu'effectivement elles avaient
une durée de vie
et qu'on les prolonge parce qu'on peut les prolonger. Bon bref, on va refaire l'histoire.
En fait, on se retrouve avec un truc assez récurrent, c'est que une fois que les Français détestent un président, et ça a été le cas pour Sarkozy, Hollande et Macron, fois que cette haine s'est cristallisée, de toute façon plus rien n'est entendable. Il y a des mesures qui ont été très bonnes, il y a des choses qui ont avancé, c'est vrai, mais les Français s'intéressent pas à la politique dans le détail. Ils s'intéressent pas à l'action en elle-même. C'est-à-dire qu'ils lisent pas.
C'est
très raccourci.
On me parle des 49 points, mais on ne parle pas des 150 euros supplémentaires.
Non, mais c'est Loïc, c'est encore pire. C'est-à-dire que les Français ne sont pas initiés à aller regarder dans le détail les mesures qui sont prises et qui changent leur quotidien.
C'est une erreur de communication.
Non, mais même, si tu veux, il y a plein de... Aujourd'hui, la presse, elle est à notre disposition. On ne peut pas dire qu'on n'y a pas accès. On est quand même dans un pays où les sources d'information sont vastes. Tu n'es pas obligé de te taper de la télé réalité et du buzz, tu peux aussi aller fouiller, tu peux aller lire, et si tu regardes dans les détails, il y a des initiatives intéressantes, y compris avec Sarko, y compris avec Hollande.
D'accord.
Mais une fois que tu as détesté, c'est mort.
D'accord.
C'est fini, vit que là-dessus.
On va aller maintenant dans les détails avec Mathieu qui nous appelle au 32-16. On remercie Mamadou. Mathieu, bonjour.
Bonjour les GG.
Vous êtes artisan boucher en Gironde.
Exactement.
Et vous aviez une question à poser à Loïc Senior.
Oui. Alors, ma question, elle est très simple. Aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à recruter. On a de moins en moins d'ouvriers. Et on vient de nous supprimer la taxe d'apprentissage pour toutes les entreprises. Tout corps de métier confondu. Donc, on va manquer cruellement d'apprentis. Et à partir de l'année prochaine, il va y avoir un déficit d'apprentis, à mon avis, qui va être pharaonique. Parce que je viens de recevoir le courrier de l'URSSAF pas plus tard que cette semaine, m'annonçant que la prime d'apprentissage était supprimée. Donc je souhaitais voir qu'est-ce que le gouvernement ou la majorité présidentielle souhaitait faire là-dessus.
C'est une très bonne question et encore une fois, c'est toute la complexité de montrer le bilan qui est le nôtre. Parfois, il y avait 300 000 apprentis à la fin du quinquennat Hollande par an. Il y en a aujourd'hui 1 million. 1 million notamment grâce à ce dispositif fiscal dont vous parlez. Aujourd'hui, ce dispositif...
Demain, ça va redescendre à 300 000, quoi.
Alors, ça veut dire que c'est très triste. Parce que si on redescend à 300 000 parce qu'il n'y a plus l'avantage fiscal, ça veut dire qu'on a en fait incité des gens à recruter patrons, des apprentis. Ça veut dire qu'on doit payer des patrons, c'est ça, pour qu'ils engagent des jeunes.
Et c'est le même système que payer le SMIC à 1600.
On a été incitatif. On a été incitatif. Ça a très bien marché, ça a très bien fonctionné, parce qu'on a réussi à recréer une filière qui était totalement ratiboisée et que la gauche avait abandonnée. Et on est passé de 300 000, je crois que c'est 300 000, c'est peut-être même moins, à 1 million d'apprentis par an.
Comment on peut refinancer?
Et alors, il faut retrouver du financement, mais à un moment donné, on va pas faire payer, parce que c'est de la dépense publique, cet avantage.
Bien sûr.
Aux gens, le recrutement d'apprentis par les patrons. On a montré que c'était possible. On a montré que c'était possible.
C'est de la richesse pour le pays.
Énormément d'argent public.
Mais c'est beaucoup d'argent public.
Mais on le fait bien.
Non, mais ça veut dire qu'on a ça veut dire qu'on a trouvé une solution. Que les patrons peuvent embaucher, qu'on peut former, qu'on peut bien former et qu'on peut insérer dans la société des jeunes qui n'ont pas fait un parcours classique.
Mais oui.
Ça, c'est ce qu'on a fait nous. Et aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas jouer le jeu de l'incitation fiscale toute la vie. Parce que sinon, c'est de l'argent qu'on met pas.
On est dopé à l'incitation fiscale.
En fait, je vais résumer les deux questions. Si je mets trop d'argent pour les patrons pour qu'ils recrutent des apprentis, je ne mets pas d'argent pour le salaire de Mamadou. Et pour l'hôpital public et pour les infirmiers. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, j'ai vu que des patrons savaient embaucher, savaient former, parce que les apprentis, c'est de la formation.
Et c'est au patron de prendre le relais.
Voilà. Pardon ?
C'est au patron maintenant de prendre le relais.
Bah, je pense qu'à un moment donné, les patrons, ils ont été quand même beaucoup aidés. Et on a incité au retour à l'emploi.
Merci.
Oui,
moi, je suis d'accord avec vous. Mais il y a combien de petites entreprises de TPE, parce qu'on pense que sur les grosses. Nous, on est des petits. Non. Le problème, c'est que moi, si vous voulez, je donne 5000 euros d'URSSAF tous les mois parce que j'ai deux salariés. Si vous voulez, moi, comment je fais pour embaucher un salaire, un apprenti, prendre du temps, passer du temps, parce que lui, il ne me fait pas gagner d'argent, l'apprenti. Moi, mais c'est du temps que je vais prendre sur moi.
Oui, si mais ça...
Oui, mais l'année prochaine, moi, je ne prends pas d'apprenti.
Mais c'est
parce
une forme...
Parce que cette date, elle est cruciale.
C'est une
je ne serai pas le même dans... Je serai pas tout seul dans ce cas-là.
C'est une forme de solidarité. Il y a une solidarité.
Mais, oui, mais aujourd'hui, c'est pour redonner de l'engouement à notre. Même là, je parle pour notre filière. Notre filière, elle est sacrifiée. Vous savez
je suis. Je pense qu'on est tous les deux. Je pense qu'on est tous les deux d'accord, cher monsieur. Je pense que ce que vous avez fait, c'est extrêmement important. Et je pense que c'est bien.
Nous, dans notre petit village, si vous voulez.
Dans 40 ans, il n'y aura plus de boucher.
Bah non.
Même avant, là, vous avez toutes les grandes surfaces qui vont fermer tous les rayons de trade parce qu'ils n'arrivent plus à trouver de boucher.
Bien sûr.
Nous, ça nous arrive. On met 6 mois pour recruter un boucher.
Mais c'est pareil dans la restauration, c'est pareil, il y a des tas d'endroits.
C'est pour ça que si on supprime, vous voyez, des petits trucs comme ça, qui aident les entreprises, parce que. Et qui vont faire de nouveaux salariés. Moi, je trouve ça complètement ridicule de supprimer cette aide. Parce que justement, ça permet, avec les petites TPE et PME qui sont très mal financièrement aujourd'hui, comment on va faire pour renouveler les salariés qu'on va avoir demain?
Vous résumez encore une fois toute la difficulté qui est la nôtre. Vous êtes en train de me dire, ne supprimez surtout pas quelque chose qui a été bien fait, alors que l'on dit matin, midi et soir que tout a été mal fait. Donc, moi, je vois quelque chose de particulier là, chez la filière dont vous parlez. Et je pense que la ministre de l'Apprentissage va pouvoir regarder au cas par cas aussi, parce qu'il y a des filières qu'on ne va pas sacrifier, bien évidemment. C'est simplement le fait de retirer cette incitation fiscale pour le plus grand nombre, parce qu'on sait que ça marche et qu'il y a la possibilité aujourd'hui de recruter des apprentis, de les former. Et c'est un investissement, c'est de la solidarité pour l'avenir, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de redonner à nos jeunes la capacité d'être dans l'emploi très rapidement, formés, bien formés et en capacité aussi de vivre leur vie très rapidement. Maintenant, s'il y a des singularités dans des niches, dans des filières, il faudra s'y adapter, il faudra une clause de revoyure pour dire on peut garder cette incitation ou trouver un mécanisme qui permet qu'une filière subsiste et ne s'écroule pas. Et ça, vous avez entièrement raison. Mais encore une fois, c'est si je desserre un peu la focale et que je vous entends très bien, il y a quelque chose qui a été bien fait par ce gouvernement. Aujourd'hui, c'est important de le dire, parce que tout n'a pas été mal fait, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, mais il y a des choix derrière, il y a une solidarité nationale qui doit aussi se mettre en place, parce que tout le monde, ne peut pas profiter des mêmes avantages, sinon on va droit à la catastrophe, et c'est malheureusement le discours qui est tenu par le Nouveau Front Populaire.
Dernière question, très vite, parce que je rebondis sur ce que vous dites, dans votre majorité plurielle, il y aura quand même l'engagement de ne pas augmenter les impôts ?
Je le souhaite.
Ah, pas sûr.
Je le souhaite.
Non, c'est vrai que vous
êtes C'est l'ADN de la Macronie. Ne pas avoir augmenté les impôts.
Ah, merci Loïc Signor. Bonne fin de campagne à vous.